Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire les a appelés les revenants, comme des fantômes ou des zombies qui reviendraient hanter les vivants. Ils sont 1700 Français à être partis en Syrie ou en Irak depuis 2014 pour rejoindre les rangs de l'État islamique et vivre, je cite, pour tuer et être tué, comme dit David Thompson, fin connaisseur des djihadistes français. Emma, l'héroïne invisible de notre histoire, n'est pas partie en 2014. Son départ a été intercepté par le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Mais que sait-on au juste de ceux qui sont restés tout en aspirant au départ ? Les séances de désembrigadement proposées par la chercheuse Dounia Bouzard dans ce centre de prévention ont-elles été efficaces ? En 4 ans, il faut dire que la dite Dounia Bouzard s'est trouvée au centre de multiples polémiques. Certains, comme le même David Thompson, pensent que de toute façon, les programmes de déradicalisation sont une tartufferie, que les djihadistes sont parfois déçus, mais jamais repentis. D'autres ont accusé Dounia Bouzard d'avoir avec ses deux filles, Lydia et Laura, capté des appels d'offres et gagné beaucoup d'argent. D'autres encore lui reprochent enfin d'avoir passé son temps sur les plateaux télé, accompagné notamment d'une jeune femme, un soi-disant modèle de repentance qui a fini par se faire arrêter sur la route de Syrie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'efficacité de sa méthode était et est difficile à évaluer. Emma en est un exemple frappant, elle n'est pas partie en Syrie, c'est vrai, mais en avait-elle vraiment le rêve, l'intention précise? Et si oui, a-t-elle vraiment renoncé maintenant au djihadisme, à la violence armée? En attendant également de répondre à ces questions, le centre de prévention est devenu un centre de recherche missionné par l'Union européenne et Nathalie, la mère d'Emma, a fait une découverte qui la bouleverse. C'est le dernier épisode de cette première saison, Ma fille sous influence, un podcast et une série proposée par Rémi Dibowski-Douat et Laure Marchand.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Réveillez-vous au lieu de discuter de choses qui n'ont pas d'intérêt. Faites quelque chose ! Faites quelque chose !
C'était un cas particulier, Emma.
Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'elles se sont fait avoir par ça, mais elles y restent quand même.
Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille.
Entre 60 et 80 habitants de Trappes ont cherché à rejoindre Daesh.
Elle avait un visage tellement fermé.
Nous sommes en 2015. Avant les attentats du 13
novembre. Et puis après, histoire terminée, on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais.
Bon, je fouille régulièrement, mais là, pour le coup, là, le tapis de prière qui est revenu, bon, là, ça va, c'est plus... À la limite, je trouve ça plus sain, quoi. Avant, elle planquait tout, tu vois. Ah, une espèce de truc, là. Espèce de robe informe qu'elle achète je ne sais où. Voilà, t'as un élastique dans le cou, t'as un élastique sur les bras, et puis ça descend jusqu'aux pieds, c'est complètement informe. Elle fait 1m58 toute mouillée, le truc c'est du XXL, c'est vraiment... Et elle a beaucoup de choses comme ça. Par contre, c'est le chantier. Ouais. Ça, c'est des foulards.
Tu cherches quelque chose en particulier, en fait ?
Oui, je cherche le dessin... que j'ai trouvé dimanche quand je suis rentrée. C'était un dessin d'un petit gamin de 6-7 ans. Le fameux dessin. Non, bah évidemment, il l'a planqué.
À quoi ressemble la chambre d'Emma ?
Elle laisse tout traîner. On voit bien que c'est un bébé, quoi.
Une jeune fille de 20 ans, élève aide-soignante à Paris, convertie à l'islam depuis 5 ans, aspirante djihadiste avant d'être rattrapée par les cheveux par sa mère et par Dounia Bouzard, alors directrice du centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam.
Quand je suis dans cette chambre, je me dis que ma fille n'est pas finie, c'est encore un bébé sur pattes quand tu vois le chantier.
Elle ressemble en fait à n'importe quelle chambre d'ado restée chez ses parents sur le tard. Sur un lit simple, on trouve encore des peluches, il y a des photos sur la commode, d'elle et de ses parents, de son frère, de leurs vacances à tous, à la montagne. Faut-il voir dans l'absence de posters sur le mur d'images de chanteurs ou de rockers, de langues des Rolling Stones ou de pages découpées dans les journaux, un signe de radicalisation persistante? Impossible à dire.
Je ne dis pas que c'est une chambre de fille qui est prête à vivre avec un mec à la salaf.
En revanche, la dernière fois que Nathalie a fouillé cette chambre, elle s'en souvient très bien.
Je vais direct fouiller dans sa chambre. Je récupère son linge sale et je tombe sur un dessin. Un dessin qui n'était pas caché puisqu'il était tombé par terre. Donc je vois un petit dessin d'enfant, probablement un enfant de 6-7 ans. Et c'était marqué « Tata Jenna » et « Tonton Imadou ». Et on voit une fille avec une couronne, une belle robe blanche et un garçon bien habillé noir avec un petit carrosse, etc. Donc on voit bien, c'est une femme blanche avec un homme noir. Donc là-dessus, mon sang ne fait qu'un tour. Moi, je me dis Yangui Souroche. Voilà. Donc je commence donc une communication avec Emma par texto. Alors, ton prénom, Emma, c'est Emma ou c'est Jenna? Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Donc, je lui dis, je suis tombée sur un dessin, et blabla, je raconte. Oui, non, mais t'inquiète, c'est juste le prénom musulman que je me suis choisi. Et je lui dis, pourquoi? Parce que pour les musulmans, ce prénom, Emma, c'est beaucoup trop mécréant, c'est pas assez propre pour la religion. Ça veut dire quoi exactement? Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça? Et après maintes questions, elle me dit « Excuse-moi, j'aurais dû t'en parler avant, désolée, c'est un prénom musulman, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu crois, c'est juste un rituel, c'est comme un surnom. » Je lui dis « Emma, j'ai juste envie de pleurer, quoi. Ce prénom, on te l'a donné quand t'étais petite, quand t'es née avec ton père, avec tout l'amour de la terre, et tu le jettes comme si c'était de la merde, comme si ça n'existait plus. Tu me crèves le cœur. » Enfin bon, bref, je sors des trucs comme ça. Moi, j'étais déjà en train de pleurer. Enfin, c'était pour moi, c'était affreux, quoi. Voilà. Et du coup, je continue dans les questions. Je lui dis donc pourquoi le petit a fait ce dessin. Et à chaque fin de question, je lui dis es-tu mariée? Elle m'embrouille. Elle me répond pas directement. Je lui dis Emma, est-ce que tu peux être franche? Dis-moi si t'es mariée. C'est aussi simple. Tu réponds par oui ou par non. Et puis au bout d'un moment, elle dit non, pas encore. Et puis je dis, n'importe quelle famille sur cette planète ne laisserait pas sa fille se marier sans que le papa soit présent et la maman soit présente. Même dans les familles maghrébines, très musulmanes, même à la mosquée, j'ai posé des questions aux imams. Tous m'ont répondu de cœur que ça ne se faisait pas, qu'à chaque fois qu'une fille était mariée, elle devait avoir sa filiation avec elle, même si elle n'était pas musulmane. Mais t'as rien compris, je t'expliquerai. Les hommes et les femmes sont séparés, donc c'est pas possible. Tu comprends pas, je t'expliquerai. Le lendemain, je vais la chercher à la gare. Et quand on rentre, je lui dis, il va falloir que tu parles avec ton père parce que moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il se passe des choses sans qu'on soit pas au courant, sans qu'on soit pas là. C'est pas que je rejette Amadou, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, je le connais pas. Mais si, il faut que je le rencontre, il faut que ton père le rencontre, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit tous au courant. Et donc elle me dit, ben d'accord, je parlerai avec papa. Et évidemment, Daniel ne lui a pas parlé le lundi soir, et la beauté en touche, mais comme elle faisait beaucoup la gueule, il a essayé de détendre l'atmosphère. Du coup, le lendemain, j'ai pris Daniel entre quatre yeux, je lui dis, là, il faut que tu joues ta carte de père. Parce que probablement, si le mec est très salaf, il voudra même pas me rencontrer moi parce que je suis une femme, tout bêtement. Donc, il faut que tu chopes Emma et que tu lui dises entre quatre yeux, voilà, il faut que tu me dises où tu en es avec ton copain et il faut que je voie ton copain. Chose qu'il a fait le lendemain. Et le jeudi soir, elle lui a avoué qu'elle était déjà mariée. Du coup, moi, j'étais un peu en colère, donc j'ai été très distante avec elle. Et puis, mon fils, entre-temps, il a piqué une crise de nerfs parce que moi, j'ai appelé tout le monde au secours et il a assisté à une conversation. Il s'est douté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a pleuré toute la nuit de dimanche à lundi. Et du coup, c'était super chaud pour nous. Et après avoir passé milliards de coups de fil à plein de gens, tous les musulmans que j'ai eus au téléphone cette semaine m'ont tous dit « c'est des plans d'imposture ». Ils appellent ça de l'imposture. Je me marie avec toi pour coucher avec toi, déjà très rapidement comme ça s'est fait. Et le deuxième scénario, ça serait que, du coup, derrière ça, ben, on se met à vivre à la salaf radicale. Je t'enferme, je te ramène d'autres femmes, tant qu'on y est, puisque la polygamie est bien acceptée chez les salafs. Et puis, je te colle des mômes, et puis, voilà, t'es le torchon, voilà.
Donc, pour l'instant, on ne sait pas vraiment non plus. On ne peut pas se prononcer vraiment, réellement là-dessus, hein. Je pense que c'est un peu trop tôt pour ça.
Oui, bien sûr, mais toi, tant qu'on ne te met pas le nez dedans...
Non, mais bon...
C'est pareil, le mariage, ça fait combien de temps que j'en parle, moi? Ça fait combien de temps que je te parle de ce mec-là?
Je pense que c'est assez récent, quand même, cette histoire.
Ah, bah écoute...
Moi, ce qui m'embêterait, surtout, c'est que effectivement, elle arrête ses études, et parce que c'est quand même le principal, pour l'instant.
Et pour moi, le pire, c'est qu'il arrive à l'éloigner de nous. Pour l'instant, elle a juste avoué qu'elle était mariée, elle ne nous a pas dit quand ça s'est passé. Elle a accepté de nous dire oui pour rencontrer Amadou, mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va le voir. Pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Voilà.
Ce que je me demande souvent, c'est à quoi exactement Nathalie fait référence quand elle parle des salafs. Qui sont ces gens, cette mouvance, ce danger qui menace sa fille? Il faut distinguer le salafisme quiétiste du salafisme djihadiste. Les deux courants sont censés se détester, n'être pas d'accord. Les salafistes quiétistes condamnent le terrorisme et les attentats. Les djihadistes revendiquent le recours à la violence pour fonder un État islamique. Mais en réalité, les mouvements ne sont sans doute pas si étanches qu'on croit. Les groupes islamistes radicaux forme en France une nébuleuse avec porosité potentielle entre les courants, d'opportunisme et de recomposition permanente. Pas impossible non plus qu'Emma soit devenue une épouse musulmane stricte, soumise et non violente. On ne peut pas savoir non plus. 5 ans après la conversion d'Emma et 3 ans après son supposé départ manqué en Syrie, je suis retourné voir une dernière fois celle par qui tout a commencé, celle qui a donné la première alerte, la fameuse Dounia Bouzar.
Le mariage n'est pas une bonne nouvelle en soi, quand le jeune n'est pas stabilisé. Je ne vais pas dire autre chose. On s'aperçoit que ceux qui se marient s'en sortent moins facilement que les autres. J'ai envie de dire, tout repose un peu sur l'identité de ce garçon. Bon, après, je pense que Nathalie, maintenant, elle est outillée. C'est-à-dire que si elle ne le sent pas ou si elle a des interrogations, ben, il faut qu'elle se fasse confiance. Mais le problème qu'elle a, c'est que Emma doit être majeure maintenant. Donc c'est vrai que tout dépend de qui est ce garçon, finalement.
Rien n'interdit de penser non plus que c'est Emma, l'élément radical dont ce garçon devrait se méfier. Qui sait? Peut-être Sophie, la sœur de Nathalie, la tante d'Emma.
Alors, avec Emma, en vue comme ça, on a l'impression que tout va bien. Effectivement, elle s'est trouvée une voie professionnelle. Je la regarde régulièrement. Donc, quand elle se met en maillot de bain, je suis très contente. Quand elle met des petits décolletés, je suis très contente. Mais je me pose toujours la question de savoir si c'est vraiment elle ou si elle joue pas un jeu de jeune fille bien sous tout rapport pour endormir un petit peu notre vigilance. Ça, c'est très, très difficile. Toutes les fois je la vois, je pense à ça. Je me dis, est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle me joue pas un jeu? Maintenant qu'elle est gentille, souriante, qu'elle vit bien, est-ce qu'il n'y a pas un côté sombre qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas, où on ne peut pas agir dessus? Donc c'est pour ça que de temps en temps je teste un petit peu, parce que je veux savoir où elle va, jusqu'où elle pourrait aller, si elle est vraiment désembrigadée ou si elle reste latente et puis un jour il va se passer quelque chose. On peut penser que Emma, avec tout ce qu'elle a eu, entendu et vécu, soit gentille de vue comme ça, et puis derrière, elle a ses mauvaises pensées qui peuvent un jour faire qu'elle passe à un acte, ou en tout cas qu'elle contribue à un attentat. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas.
Voir mon grand copain en qui j'ai une confiance aveugle, que j'aime beaucoup, qui connaît très très bien les rouages du salafisme politique, puisqu'il a lui-même vécu en Algérie, il est algérien et je pense qu'il est parti d'Algérie à cause de ça. Quand il y a un problème, Je vois des vêtements pas clairs ou des papiers qui sont pas très clairs, des livres. En général, c'est vers lui que je me tourne. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue, toujours ultra positif. Puis ça me fait du bien de lui parler, quoi. Je vais me garer derrière sa voiture.
Ce qui me fait penser à un mariage salafiste, c'est ce procédé. Il y a cette recherche de pureté qui passe par un mariage qui est pur pour laver quelque chose dans son histoire ou pour suivre le mouvement sectaire. Emma, elle ne s'affirme pas par son identité propre à elle. Bon, il doit y avoir...
Oui, donc elle est passée d'une emprise à une autre, quoi, de nouveau.
Oui, donc plus, elle accorde plus confiance à ce mouvement qu'à sa famille. Voilà. Bon, ton inquiétude, elle est légitime. À qui vous avez affaire? Si ce n'est pas quelqu'un qui va l'emmener plus loin, moi je dis comme ça, spontanément. Elle sera une femme soumise? Est-ce qu'il y a une co-épouse derrière?
Tu ne vas pas remonter le moral.
C'est pour te préparer, ça remonte moins. Mais au moins tu le sais, je dis ça, mais c'est des hypothèses. Ça se trouve, tout ce qu'on est en train de se dire, il n'y a rien, elle vivra normalement.
Le mec, il est tellement gentil qu'il n'a pas osé lui dire non, qu'il n'a pas osé la contredire. Est-ce que ça, c'est possible?
Tu le sauras cet après-midi. Il te le dira parce qu'il se sentira à l'aise.
D'accord.
Je sais que tu es accueillante, tu n'es pas là à faire la guerre, tout ça. Mais tu le sauras parce qu'il se sentira à l'aise. Déjà, il vient chez vous quand même. Donc là, après, présente-toi. Voilà, on se présente. Mais ne te précipite pas sur les débats idéologiques. Les religions, les...
Je sais que Daniel, il va lui poser la question directe.
Alors, prépare-le pour que ça soit une stratégie. Une fois qu'il a parlé de lui, qu'est-ce qu'il est d'abord? C'est quoi ses intentions? C'est un projet de mariage ou c'est juste comme ça, un coup de tête? C'est là-dessus, les fondamentaux. Les questions idéologiques et religieuses et statutaires de la femme, tout ça, c'est après.
Ils se sont mariés aussi juste pour coucher ensemble, hein, moi, ce que je trouve plutôt bien. Ils vont mieux se marier.
Parce qu'en islam, il n'y a pas de rapport hors mariage. C'est comme chez les cathos avant. Ça se trouve rien que pour ça. Et puis, si vous avez besoin de ça, mariez-vous, faites l'amour.
Je dis, allez-y, couchez donc ensemble, très bien.
S'ils ont besoin juste de ce cadre-là.
Ça peut être que ça, éventuellement, non, à ton avis, non?
Ça peut être que ça, pour se donner bonne conscience qu'on n'est pas un couple impur, voilà. Ouais, donc, à voir.
Ce dont j'ai peur, c'est que Daniel lui saute dessus et soit un peu raide, quoi.
Alors, pour ça, prépare Daniel, une fois qu'il sente que vous le mettez à l'aise, que vous n'êtes pas contre lui, voilà.
Que je demande à Daniel d'arriver plus tard, alors.
Ah, ça.
Merci mille fois. Je suis désolée, faut que j'aille là.
En attendant, ce qui préoccupe pour l'instant les parents d'Emma, c'est de savoir si le repas préparé pour le mari de leur fille sera halal ou pas. Et ils ne sont pas d'accord. C'est une discussion de fond, philosophique, existentielle, dont vous avez déjà entendu les brèves.
Est-ce que tu es prêt à accueillir le petit copain d'Emma?
Mais je suis pas prêt à manger halal. J'ai déjà du mal à manger de la viande, mais alors je suis plutôt végétarien, mais alors halal, c'est encore pire pour moi.
Mais t'es pas obligé de manger, mais on va faire un repas halal pour que lui ait l'impression qu'on lui souhaite la bienvenue. Point, un petit geste.
On peut faire un repas végétarien à ce moment-là.
Donc, tant que ça sera comme ça, elle ne dévoilera pas sa vie telle qu'elle la conçoit avec sa religion. Voilà.
Et voici comment la discussion s'est finie.
J'ai préparé un repas halal, un colombo avec du poulet halal. Mais je pense qu'ils ne mangeront pas là. Elle m'a dit hier qu'ils ne mangeraient pas là. Donc ça va être juste un goûter. Et après, j'ai proposé de les ramener. Mais à mon avis, ils vont vouloir prendre le train. Mais bon, je sens qu'elle freine des cas de fer. Voilà. Je sens qu'elle est distante. Mais bon, peut-être parce qu'elle a peur. Hein. Je peux comprendre. Alors écoute, on sort de chez... Toufi qui m'a donné des informations précieuses quant à l'attitude adoptée cet après-midi quand même.
Ouais.
Il faut qu'on en parle, hein, parce que si tu commences à faire des grandes élucubrations sur le Coran et les interprétations des hadiths et des machins et blabla, et des femmes du prophète, là on s'en sort pas, quoi. Hein, tu vas les bloquer complètement à l'envers, et lui et elle.
Est-ce que tu comprends ça? Ouais, pour l'instant, premier contact aujourd'hui qui va durer qu'une heure et demie, hein, ça va pas durer longtemps, ils viennent juste prendre le goûter. C'est genre, bonjour, on t'ouvre la porte, on est content de te rencontrer. Alors, vous êtes rencontrés comment? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu vois? Allô?
Oui, oui.
Ouais, c'est vachement important, hein, super important. Parce que tu peux le foutre à l'envers et il va commencer à nous manipuler, ils vont nous mentir à deux du coup. Si on les prend gentiment, ils vont se lâcher un peu et là ils vont nous donner des informations. Là.
Ouais.
Là c'est pas ouais, c'est, faut que je sois sûr de ton attitude, sinon vaut mieux pas que tu sois là. Quoi.
Ah carrément.
Non mais c'est pas ça, c'est moi qui le dis ça. Il faut que tu sois hyper tranquille, quoi, cool, que,
cool,
que le mec il ait pas l'impression d'arriver à un procès, mets-toi à sa place, c'est normal, quoi. Il n'est pas censé savoir que nous on est terrorisés par les salafistes radicaux. Donc, tu vois.
Non, mais on peut lui poser quand même quelques questions.
Par exemple
Je sais pas, moi. Tu trouves qu'on peut pas discuter, par exemple, de choses comme l'égalité homme-femme, des choses comme ça?
Non.
De lapidation.
Mais sérieux, t'es con. Hein. Non, mais écoute voir.
On peut voir si c'est un mec modéré ou si c'est un.
Non, tu peux pas.
On peut pas.
Non.
Même si c'est pas un mec modéré, il faut quand même être gentil avec lui.
C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, pour l'instant, essayons de faire fi de nos a priori et d'accueillir l'amoureux d'Emma. Point. Bon. On fait comme si Emma n'était pas salaf et comme si son amoureux, c'était son amoureux, point. Comme quand Hugo il ramène ses petites copines, on les voit même pas. Elles vont directement dans la chambre d'Hugo.
Oui,
bon, c'est un peu différent. Il faut que ça reste pareil pour l'instant.
Ouais. Enfin, moi, j'aimerais bien quand même lui parler un petit peu.
Non, pas maintenant. Tu me le promets, s'il te plaît.
Mais quand alors?
Elle est là. Faut que j'y aille. La prochaine fois, on se débriefera avec Toufik. D'accord? Il va te donner des informations précieuses. D'accord. Tu promets?
Ben oui, mais
cool.
Attends, moi, je suis pas.
Tu promets?
Je ne vais pas agresser.
Non, mais je sais bien, mais je vais travailler, ok? Non, évidemment, pas de nouvelles. Daniel, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message? Je fais quoi? J'attends qu'elle me contacte. Et pour l'instant, ouais, j'ai pas trop envie. Elle sait qu'on est au taquet, qu'on les attend. Donc, ça serait bien qu'elle arrête de me faire. Je trouve qu'elle joue un peu avec nos nerfs. Mon cher Daniel, chérie, veux-tu bien mettre du chauffage? Tu m'avais promis que t'achèterais un petit peu de bois. Donc, ça serait convivial si la cheminée marchait.
Okay.
D'accord. Je propose qu'on aille faire chercher les gâteaux. Comme on va ça. Prendre la voiture parce que. Je suis sous l'emprise d'Emma en fait. Je me suis dit, je vais aller à la boulangerie où elle va toujours, tu sais, dans Trappe. Donc, je l'ai fait rire l'autre jour parce que je lui dis oui, est-ce que je peux acheter des gâteaux dans une boulangerie normale ou il faut que j'aille dans une boulangerie halal? Elle était morte de rire. Je lui dis, au lieu de te foutre de moi, dis-moi. Non mais tu vois où j'en suis. Donc aujourd'hui, que je sais que de toute façon les gâteaux, il n'y a rien de halal ou pas halal, ou haram ou pas haram, je vais aller dans une boulangerie normale. Donc les gâteaux de cato. En fait, je suis complètement angoissée, pour te dire. Je ne sais pas quoi penser, quoi dire, je ne sais pas. Je suis un peu perdue, là. Je me pose des questions sur ma part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Pour la première fois, je culpabilise, voilà, d'avoir provoqué la recherche identitaire d'Emma, je ne sais pas, de peut-être avoir plonger les enfants un peu dans l'insécurité en voulant les sécuriser, voilà. Trop. Voilà. On dit que j'en faisais un petit peu trop, peut-être.
Vous voulez encore avec moi, elle dit c'est tout.
Bonjour. Je vais prendre une tarte aux framboises, puis je vais vous prendre du pain. Et ça, c'est un pain aux noix.
Au noix, oui, c'est ça.
Super, bah, je vais vous le prendre. Trop beau.
Voilà, madame, 25 euros, pardon, 50.
Donc là, j'ai envoyé un texto à Emma pour lui demander à quelle heure ils arrivent. Hein. Donc je mets, je ne sais pas, hein. Hello Emma, quelle heure voulez-vous venir cet après-midi? Je viens vous chercher à la gare. C'est tout. J'attends une réponse. Il faut vraiment lui arracher les vers du nez. Hein. Ça me gonfle. Un jour, je vais lui dire tout ce que je pense. Hein. Ah, c'est elle m'appelle. Allô? Bah alors, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Il est super beau pour une fois, donc j'avoue. Ouais, c'est bien. Bon, vous venez à quelle heure? Pardon? 16h30. D'accord. Ok, mais vous venez en train. Bon, ok, ça marche. Je vais acheter plein de gâteaux, je vais les mettre au frigo parce que 16h30, moi je pensais que vous arriveriez vers 15h. Ok. Donc vous allez venir, vous n'aurez pas mangé. Ok. Et donc c'est à l'africaine l'horaire ou c'est je peux compter dessus? Ok, ça roule. Bon ben gros bisous ma fille, à tout à l'heure alors. Bisous. Bon, allez. Le sang en est jeté, 16h30. Il n'y a plus qu'à attendre. La maison est propre. Les gâteaux sont là. Hein? On verra. Hein?
C'était le dernier épisode de la première saison de notre série et fameux podcast Ma fille sous influence, proposé par Rémi Dibowski-Douatte et Laure Marchand. Si vous voulez entendre la deuxième saison, précipitez-vous sur toutes vos applis de podcast, vous vous abonnez à Ma fille sous influence et vous pourrez entendre la deuxième saison ou bien sur le site de France Culture. Merci à Emmanuel Geoffroy qui a réalisé cette émission, à Media Sportis Guérin qui s'est occupé de cette rediff, à Daniel, Nathalie, Isabelle Toufik, Dounia Bouzard, Sophie, Céline Autin, Sandrine Chaperon et Adila Benedja Izou. C'est Zoé Marie Roulier aussi qui est notre stagiaire et c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre.